There is this thing.
Do you realize
what is? There is this thing.
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on.
What?
Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news? I'm brought to you live.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres à développer à cette première édition des formations de la Voix des immigrants. Des travailleurs et travailleuses du Québec racontent leur vie au Canada. Les travailleurs unis en alimentation et en commerce appellent le gouvernement du Québec à mettre un terme à la discrimination contre les plus vulnérables. La coalition contre le travail précaire marche en faveur de l'amélioration des conditions de travail des immigrants. Des milliers d'immigrants illégaux haïtiens, jamaïcains et cubains déportés ou en instance de déportation suite à l'adoption d'un décret par le gouvernement des Bahamas. Le président Barack Obama offre à plus de 5 des 11 millions d'immigrants illégaux la possibilité de résider et de travailler aux États-Unis. Le gouvernement mexicain nie toute implication dans la disparition des 43 étudiants. Ebola et migration. Centaines de travailleurs et travailleuses, membres du Centre des travailleurs immigrants, ont répondu à l'appel de la coalition contre le travail précaire au cours d'une marche organisée le 7 octobre dernier au Square Victoria. Suivons ce reportage.
Moi, je suis Viviana Medina et je suis travailleuse organisatrice dans le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, mais aussi je suis une travailleuse des agences de placement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est montrer devant de faire une comme une petite action devant le bureau des ministres de travail, juste pour montrer être visible. Nous sommes ici, on demande un rendez-vous parce que notre membre de la coalition, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de désirs de parler de qu'est-ce qui passe dans notre environnement, chacun comme les travailleurs temporaires, les travailleuses domestiques, les travailleurs et travailleuses d'agents de placement et pour les conditions de précarité pour tous les immigrants. Et puis, on voulait rencontrer le ministre avec la fin de pouvoir nous exprimer et donner notre revendication, qu'est-ce qu'on veut pour améliorer la situation de tout le monde. Non? Parce que quand même, je pense que la situation de précarité, c'est pour tout le monde, pour tout le monde, pour tous et toutes. Et même bien sûr, pour les citoyens, les Québécois, tout le monde est dans la situation de précarité, mais pire encore, les immigrants. Et faire comme cette sorte d'action devant des ministres, c'est pour être visible, aussi pour sensibiliser tout le monde qui passe, qui nous regarde, et hey, nous sommes ici, non, il faut que vous nous écoutez, que vous nous regardez. Non, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les conditions, qu'est-ce que vous aviez, c'est nous qui les fait, qu'est-ce que vous mangez, c'est nous qui les fait, où est-ce que vous asseyez, c'est nous qui on nettoie tout ça. Et puis c'est important que les gens, les personnes régulières, tout le monde nous regarde, nous écoute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est cette action, c'est pour montrer à tout le monde, hey, on existe. Écoutez-nous, non? C'est ça.
On veut dire que nous, les travailleurs temporaires, on n'est pas des objets. On n'est pas un ordinateur, on n'est pas une chaise que tu peux jeter à la poubelle quand tu viens de finir de nous utiliser. Et on n'est pas une chose que tu peux retourner à son pays quand il devient malade ou il se cache.
Mes amis, aujourd'hui, j'ai amené un message pour une personne avec un nom de, oh mon Dieu, c'est immigrant. Ah non, non, non. Monsieur San Ahmad, ministre du Travail. Ahmad, il est... Oh, oui, oui. Ce n'est pas possible, cet homme. Il est aussi immigrant. Et regarde, il est le ministre du Travail qui aujourd'hui, il a le projet, un projet de travail qui a fait aujourd'hui qui nous travaillait comme disent Claps.
We are workers and we must assert our right to decent living and working conditions. Especially migrant workers caught in an ever-changing roller coaster of government policy changes.
My name is Jasmine de la Calzada, and I'm a member of PINAI, which is a Filipino women's organization in Quebec. We've been a member organization in the coalition for a couple of years now, actually since the existence of the coalition. It came about because we saw the need to expose the precarity of the working conditions of workers here. And for our case in PINAI, migrant workers, and mainly these women migrant workers who are living caregivers. So that's our majority of members in our group. Our organization is solely Filipino workers.
What would you like to see, I mean, ideally and also more realistically?
Ideally, we have quite a few demands regarding the caregiver program. But in general, we would like to see the situation of migrant workers improve here in Quebec and in Canada. I mean, we've asked to meet with the Minister of Labor a few times over a couple of years. We met with Agnes Malte last year once, and there was really no follow-up on the government's part. So we sent a letter to try to see if we could meet with them again. So we have general demands within the Precarious Workers Coalition, but as for the PINAI members, we have specific demands for caregivers as well, pertaining to the immigration program of the living caregiver. But in general, we would like them to have better conditions, especially since they're migrant workers and they're temporary here in Canada. So they're much more vulnerable to, like I said, to abuse and exploitation. So they're a huge percentage of workers that come to Canada that are needed by Canadians and by the Canadian government. So why can't we have them protected? Why can't they have the same benefits and rights as regular Canadian workers here? It's just a situation that they work through, the precarity of their working conditions. It shouldn't be, especially on a day like today. We commemorate, you know, World Day for Decent Work. We should expose that and show that there's a lot of these workers that are not benefiting from the regular rights that they should be enjoying as workers in Canada, Quebec, Canada. politically, we need to address the government as being responsible for the improvement of our lives here in Canada. But it is our responsibility as well to demand these rights, you know, as workers. We need to, as the people that are going through the situation, we need to be the ones to assert our rights. So we will do that, and as well, you know, expose the situation and ask the government to also be responsible in this, you know, improvement in our lives too.
Je suis membre du comité de coordination de la TAP. Le salaire reste précaire. Le vrai salaire qui est payé par l'employé et comment je peux dire se divise entre le travailleur et les agences. C'est vrai, c'est une organisation qui essaie de donner, de rechercher les emplois pour le travailleur, mais ils sont allés au-delà de ce qu'il faut. Donc tout ce que nous demandons maintenant, c'est que le gouvernement puisse regarder un peu là-dessus et puisse encadrer ces agences-là, afin que ces agences arrivent à respecter les droits des travailleurs. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de négligences et que le gouvernement n'arrive pas à regarder là-dessus pour remettre un peu les choses en ordre. Donc nous voulons un travail équitable pour tous et un salaire décent pour tout le monde. N'importe qui travaille, il doit avoir droit au même traitement. Et non pas la moitié de traitement pour certains et le full traitement pour les autres. Non. L'égalité du travail, l'égalité du traitement dans le salaire et dans les conditions de travail. Le but aujourd'hui, c'est de sensibiliser le gouvernement parce qu'ils ont, ils sont en train de dormir là-dessus. De le sensibiliser, qu'ils se réveillent un peu, qu'ils essayent d'aller voir ce qui se passe. Parce que quand il y a des inspections qui se passent, c'est juste à la volée et ils n'arrivent pas à trouver le vrai problème. Mais les gens sont en train de souffrir, les travailleurs sont en train de souffrir, ils sont en train de subir des traitements pas du tout corrects pour quelqu'un qui travaille, et quelqu'un qui paye ses impôts, les taxes et tout. Ce n'est pas du tout correct que le gouvernement laisse tomber ses droits qui sont aliénés par une cloison ou quelqu'un qui l'utilise.
Donc, on est ici pour le dire au gouvernement de Québec, au gouvernement canadien, qu'il ignore complètement notre condition humaine et nous traite comme des marchandises. Il nous traite comme si nous étions des bétails, des choses que tu peux interchanger dans deux petites élites, à le pays d'origine et à le pays d'accueil. Les deux petites élites font son business entre eux et nous sommes la marchandise, non? Après le 20 juin de 2014 et le changement de la loi sur les travailleurs temporaires, cette situation n'a fait rien, mais s'est aggravée. Merci beaucoup!
Fatima Tae, je suis touché, mais je te pardonne. Fatima Tae, oh ma belle, oh ma belle.
Rumba music.
Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil. Façon comme ça, ta façon d'aimer doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment Fadi. Ta façon d'aimer chérie, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil. Oh ma belle, parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil.
Vous écoutez CKUT 90,3 FM à Montréal, la radio qui réveille.
Le gouvernement canadien a décidé de n'octroyer que 6 000 visas par an à des ressortissants étrangers. Sur le terrain, ils sont déjà plusieurs centaines de milliers, voire des millions, à faire face aux défis de l'immigration. Intégration, travail, scolarisation, déboires et réussites. Nous avons reçu ici à CKUT quelques-uns d'entre eux. Écoutons leurs témoignages.
Ok, donc bonjour à tous les invités. Je voulais commencer par vous demander chacun de mentionner votre pays d'origine. On a trois invités avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez mentionner votre pays d'origine?
Et merci David, c'est pour nous un plaisir d'être à CKUT et de répondre à cette invitation et de parler un peu de nous, de cette nouvelle expérience que nous sommes en train de faire ici au Canada. Moi, je suis haïtien, ça fait un peu plus de 2 ans que je vis au Québec. Vraiment, c'est un pays que j'ai longtemps souhaité visiter. Maintenant, je suis résident, donc vraiment c'est avec plaisir que je rencontre des gens là et discuter de culture, de tout ce qui a à voir avec l'individu.
Oui, bonjour. Moi, je suis aussi heureux d'être parmi vous. Mon pays d'origine, je viens du Congo. Ça fait près de 3 ans que je suis ici au Canada, donc au Québec. C'est vraiment pour moi une nouvelle expérience pour voir une culture tout à fait autre et vivre cette expérience-là et vivre une autre vie, une autre façon de voir les choses.
Buenas noches. Yo vengo de Perú, de Lima, Perú. Estoy aquí hace aproximadamente 3 años, un poco más de tiempo. Y trabajo aquí en una agencia. Trabajo en diferentes lugares, ya que la agencia me envía a diferentes lugares para ir a trabajar.
Donc, on pourrait peut-être commencer par discuter peut-être juste ça, les conditions de travail.
Et comme le dit, c'est pas un proverbe, un dicton, le travail ennoblit. Mais il y a des conditions de travail qui est loin d'être appropriée, qui est loin d'être normale. Et je crois que tout immigrant en arrivant ici au Québec, au Canada, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de chercher du boulot pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir payer ses factures. Et quand on sait que ces gens-là, pour la plupart du temps, ils viennent de pays où les conditions, ou même s'ils sont formés, même s'ils sont éduqués, il y a un décalage tel entre le pays d'accueil et son pays d'origine qu'il est obligé de retourner à l'école, d'où il n'est pas trop qualifié pour trouver un travail décent. Donc, la première chose à faire, c'est d'attraper au passage ce qu'il trouve. Donc, on a recours le plus souvent aux agences de placement. Et c'est là, je ne dirais pas le danger, mais c'est là que ces gens-là vont se faire piéger. Donc, le temps d'avoir quelque chose de professionnel au Canada, ils se font, je dirais, exploiter par ces agences. Ces agences-là, d'un côté, je peux dire qu'ils rendent service parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun recours quand ils arrivent ici. Quand ils arrivent ici, ils n'ont aucun recours. Donc, ils sont obligés de s'adresser à ces agences de placement. Ces agences de placement les réfèrent à une entreprise où ils vont travailler. Ils travaillent pour un salaire minimum et ils ne savent pas combien l'agence, elle prévoit sur ce qu'ils gagnent à l'entreprise. Et ça, c'est un premier aspect, aspect salaire. Les conditions de sécurité telles que les bottes qu'on exige souvent à ses employés sur les lieux de travail, les agences n'ont rien à voir souvent avec ces bottes de sécurité, à l'employé lui-même de se procurer ces bottes de travail. Donc,
l'immigrant ou l'employé arrivé ici au Canada, il subit tous les coûts de ses entreprises, de ses agences. Donc, et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé de répondre aux exigences de ses agences pour, pendant des mois, pendant des années, subvenir à ses besoins. Mais de notre côté, je disais que les agences, ils rendent service parce qu'ils permettent à ces immigrants fraîchement arrivés de trouver du boulot, de payer leurs factures. Mais de l'autre, ils exploitent les employés. Ils ne doivent rien à ces employés, même si ces employés sont révoqués, ils ne vont pas les défendre contre l'employeur. Donc, ils constituent, disons, ces agences, elles constituent une soupape pour l'entreprise, pour l'employeur. Donc, l'employeur, lui aussi, n'a rien à voir avec l'employé. Il n'a rien à voir avec l'employé. Autant dire qu'il peut renvoyer cet employé à n'importe quel moment et ce n'est pas l'agence qui va défendre cet employé contre les abus qu'il pourrait subir de la part de l'employeur. Tout ce que l'agence, à ce moment, pourrait faire, c'est de vous référer à une autre entreprise, à un autre employeur, où vous allez subir les mêmes coûts, les mêmes exploitations. Donc,
Si je pourrais juste arrêter sur la question des exploitations là, et surtout sur les conditions physiques et les effets physiques, et peut-être on pourrait tourner à votre camarade de travail là, parce que je crois que vous travaillez dans le même entrepôt, et si on peut mentionner le nom de compagnie, pas cette fois-ci, mais est-ce que vous pourrez décrire un peu les effets physiques de le travail que vous fassiez?
Oui. Tout d'abord, je voulais revenir sur, avant de répondre sur la question de l'effet des efforts que nous fournissons sur le corps, je voulais faire voir quelque chose au début. Comme mon collègue l'a mentionné, il dit que vous arrivez et le temps de s'intégrer, chercher un travail dans tes qualifications, bon, vous tombez entre les mains des intermédiaires, donc les agences de placement. Et ceux-là font ce qu'ils veulent de toi. Mais quelque part, c'est le système ici qui s'est fait piéger, si je peux dire ça, avec les processus qu'ils ont établis. Vous arrivez, vous pouvez être qualifié. On vous soumet à faire des équivalences. Ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à une année. Et peut-être ça vous oblige à aller faire une formation complémentaire. Ben, dans l'entretemps, on n'est pas mort, on vit. On doit manger, on doit circuler, on doit dormir quelque part. Donc, bref, on doit avoir une ressource pour faire face à tous ces besoins-là. C'est en ce moment-là que les agences de placement font leur affaire. Donc, ils vous prennent et ils vous soumettent à n'importe quelle condition et ils bloquent l'information, la vraie. Quand ils vous prennent, ils ne vous donnent pas des informations qu'il faut et ils vous envoient quelque part travailler. Et c'est un peu comme si, je peux dire que c'est une exploitation. On vous exploite, on exploite ta force, on t'exploite pendant que tu es dans l'ignorance de tes droits, effectivement. Bon, ça c'est pour faire voir l'autre revers de la médaille du processus qui est mis sur pied par le gouvernement pour que quelqu'un arrive ici, il s'intègre, il fait des équivalences et ceci, cela, les conséquences que ça donne sur celui qui arrive. Bon, pour revenir maintenant sur les effets sur le corps, essentiellement, le travail que les agences de placement donnent, C'est un travail physique. Et on ne vous donne pas assez de temps pour vous reposer, vous reconstituer. Et des fois, on peut vous appeler même les jours où tu es censé te reposer. On te prend le matin à 7 heures, tu travailles. Ce sont des efforts physiques. Vous portez des affaires, vous allez décharger un conteneur, vous devez transporter des boîtes, vous devez transporter de l'eau et tout ça. Ce sont des efforts physiques pendant de longues heures. Vous pouvez commencer à 7 heures pour terminer à 5 heures du soir. Et des fois même, quand il y a beaucoup à faire, on vous demande de prolonger à 6 heures, 6 heures et demie. Et vous rentrez et de 5 heures du matin, vous êtes debout parce que vous devez encore y aller. Donc, vous avez toute la journée et à la disposition de cette entreprise-là. Bon, les week-ends, on vous appelle encore. Non, vous n'avez pas suffisamment le temps ni de manger, ni de vous reposer. On constate qu'il y a des gens, des fois, qui tombent parce qu'ils ont fourni des efforts. Ils n'ont pas eu suffisamment le temps de chercher une bonne nourriture. Ils peuvent juste se contenter d'une petite boisson, quelque chose comme ça. Ils rentrent, le commerce sont fermés, ils ne savent pas aller faire l'épicerie. Bon, il peut passer des fois deux semaines comme ça sans faire l'épicerie. Et par conséquent, ils ne savent pas très bien se nourrir et ils doivent faire des efforts au travail, transporter des affaires et tout ça. Donc, souvent, on voit des gens qui tombent malades, qui ont des maux de tête, qui ont mal aux articulations, qui ont mal au dos. Et ce sont là les conséquences de ce genre de travaux-là. Et même les conséquences de la manière dont les agences exploitent les gens pour ce genre de travaux. Et cela arrive qu'à un certain moment où vous ne savez plus rien donner, vous êtes à bout de vos forces, ben on vous lâche. On vous dit non, bon, c'est fini, on crée un motif, on dit non, bon, écoutez, c'est fini, restez à la maison, ne venez plus, votre travail est fini.
Peut-être d'abord on pourrait tourner à notre ami de Pérou. Et est-ce que vous pourrez décrire le travail que vous avez trouvé ici au Canada?
Bueno, con respecto a la forma de trabajo aquí, lamentablemente yo me he dado la sorpresa de que realmente aquí se vive la explotación a carne viva, como se podría decir, ¿no? Entonces, he trabajado en lugares de, digamos, de muy buenas condiciones, pero también en lugares donde las condiciones son completamente terribles, terribles, ¿no? Y donde el esfuerzo físico es muy desgastante, donde pues trabajos donde debe de ir dos personas toman una sola persona, de manera que esta persona pues sale completamente agotadísimo y en dos, tres días caen enfermos, ¿no? Bueno, ese es el caso mío y el caso de muchas personas, ¿no? En mi caso trabajo yo en una compañía donde trabajo mucho con las manos, ¿no? Y pues normalmente es continuo mi infección a los tendones, ¿no? A los tendones de los dedos y a los tendones de los brazos. Entonces es realmente terrible esto, pero lamentablemente pues uno depende de esos trabajos. Y pues quiera, uno tiene que estar ahí, ¿no? Trabajando hasta que uno pueda ver tal vez otro mejor trabajo o otra oportunidad. Pero mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Y la verdad es que sí, existe una explotación muy significativa en comparación a otros, digamos, a los países como Sudamérica, que realmente no se ven estos tipos de explotación, ¿no? Esto es sorpresa para mí porque pues siempre se tiene la idea de un país de primer mundo donde realmente todo está actualizado, la tecnología pues es de primera. Sin embargo, cuando tú entras a trabajar aquí y si tú te paseas por todos los trabajos, te das cuenta que no es así, ¿no? Realmente falta mucho en ese aspecto, ¿no? Porque yo he visto trabajos donde uno lo hace, donde hay formas donde uno puede buscar las herramientas necesarias para que no, digamos, el esfuerzo no, no sea tan, tan doloroso, ¿no? Puede haber eso. Sin embargo, ellos solamente están mentalizados en producir, en producir, en producir, y ya y no ven lo que realmente puede, digamos, ayudar a los trabajadores y digamos, este, mantener, digamos, en ese servicio donde no puedan tener esas consecuencias, ¿no? Tú te enfermas de los huesos, te enfermas de los tendones, de diferentes. Entonces realmente es muy duro. Pues yo solo puedo decir que aquí sí hay mucha explotación, muchísima explotación, realmente.
Join CKUT on Thursday, November 29th for its second edition of Thursdays Alive, featuring the beats, grooves, and magic of Elena Studley, Shina, and Strange Fruits. Plus, the aloof hipster will be DJing all night to keep your boogie shoes in good use. For a free night of R&B, soul, and an all-star cast, stop by Thompson House Basement at 3650 McTavish. And when you decide to put down your phone, that's Thompson House Basement on November 29th. Doors are at 8:30 p.m. and the show is at 9. And I'll mention it again because it feels that good. Admission is free. See you there.
Ah, Banco Gotiti Records is taking over the Montreal sessions on CKUT this December. Tune in every Tuesday afternoon, 3 to 5, for live in-studio performances, artist interviews, and unreleased exclusive tracks from Nani Wo, Pat Jordache, Vesuvio Solo, Group Sound, and other special guests. Montreal Sessions at 90.3 FM or CKUT.ca.
Je vois leur visage, ils me disent avance et poursuis ta vie, survivant de l'âme. Résistant de l'âme.
Québec, on a parlé du projet de loi numéro 8, un projet de loi modifiant le code du travail à l'égard de certains salariés d'exploitation agricole. Nous avons avec nous Noé qui va expliquer pour nos auditeurs en détail ce qu'est ce projet de loi 8.
Oui, merci beaucoup. Et j'ai juste expliqué un peu c'est quoi ces modifications sur les projets de loi 8 parce que c'est des modifications que se viennent de faire, même si la commission des droits de la personne a dit que sont des modifications qu'il doit prendre en considération à faire, parce que, comme tous les êtres humains, ils sont les droits de la syndicalisation. Alors, pour pouvoir avoir la syndicalisation, les travailleurs et les travailleurs migrants, il y a une longue bataille à peu près 2012 qui s'est menée pour les syndicats unis d'alimentation et commerce, les TOAC. Mais ça passait dans le gouvernement un peu de Pauline Marois. Ils ont laissé passer la loi. Alors, tous les travailleurs se sont syndiqués parce que, surtout les travailleurs qui travaillent dans le secteur agricole, dans les champs, mais parce que toujours, ils invoquaient qu'ils ne pourraient pas se syndiquer à cause de qu'ils travaillent dans une petite entreprise. Alors, ils ne voulaient pas les laisser syndiquer parce que ça va signifier de perdre à l'économie et cette petite entreprise ne peut pas survivre si les personnes se syndicalisent. Mais cette loi est passée, mais il est arrivé un nouvel gouvernement, que c'est le gouvernement qui est maintenant dans le pouvoir. Mais la Union des producteurs agricoles, UPA, a fait des lobbying à propos des politiciens, surtout avec le ministre le ministère de travail, que c'est Sam Ahad. Mais lui, il a décidé de contester, mais ils ont présenté le nouveau projet de loi qui modifie le code de travail. Le code de travail, c'est pour tous les travailleurs et travailleuses. Alors, ils ont comme suggéré que ces personnes se puissent associer. Alors, ils n'ont pas besoin de se syndicaliser, mais vraiment, le gouvernement donne comme le pouvoir d'associer, mais pas négocier. Et ce projet de loi était comme interpellé par certains syndicats, comme la CCN, Conseil Central Syndicaux Nationaux, et l'FTQ. Mais malheureusement, ils sont passés pour 79 voix à favor. Alors, cette loi est déjà entrée en vigueur, ça fait plus ou moins un mois, mais il va avoir des conséquences pas juste sur certains travailleurs, comme dit la modification du code, sinon sur tous les travailleurs agricoles, parce que la plupart des travailleurs agricoles ne travaillent pas le long de l'année. Et c'est pour ça qu'ils se sont basés, que ces personnes ne se peuvent pas syndiquer. Et en prenant ça, ça est un recul parce que les personnes qui sont déjà syndicalisées, ils vont perdre son syndicat parce que les commissions de normes de travail ou de relations de travail, il va pas laisser rentrer des personnes pour les syndiquer. Il doit avoir une autorisation de la commission de normes de travail. Alors, ça, c'est les choses qui compliquent la syndicalisation des travailleurs. De mon côté, je vais dire la syndicalisation, ce n'est pas la meilleure chose, mais les travailleurs, il avait certains droits aquí de allá. Alors, tout ça, c'est comme un peu pour faire le contexte, mais aussi pour peut-être les auditeurs, les personnes qui achètent des produits, mais tous les produits comme les fruits et les légumes sont peut-être moins chers parce que ces personnes-là, ils n'ont pas le droit d'avoir tous ces droits. Mais ils ne peuvent jamais négocier parce que cette association-là, il se va conduire avec la bonne foi de les deux parties. Mais quand est-ce que les employeurs ils sont de bonne foi envers les travailleurs, c'est un peu mon question.
Vous avez dit, Noé, que ce projet de loi 8, il n'y a pas longtemps qu'il est entré en vigueur. On sait qu'il y a pas mal de travailleurs, travailleuses qui, effectivement, œuvrent dans ce secteur d'activité, dans les champs, même s'ils ne travaillent pas tout le temps pendant l'année. Quel impact ce projet de loi peut avoir sur les activités?
J'ai dit, malheureusement, il va pas pouvoir se syndiquer. Il ne va jamais pouvoir négocier ses conditions de travail. Ça, c'est la première chose. Quand une personne, il va jamais pouvoir refuser comme un travail. Parce que dans les conventions collectives, il y a certaines choses que on acquiert. Quand si, au moins si on travaille plus de 40 heures, on va payer temps supplémentaire. Alors, si tu n'es pas dans les... Il n'y a pas une convention collective, il n'y a pas une norme que te riche, mais tu vas travailler n'importe combien de temps et tu vas payer la même chose. C'est pas évident. Parce que tu as la luz que dans le travail, c'est pour les employeurs. Et parce que, comme vous savez, ce travail des fois, ça dépend beaucoup de le climat, beaucoup de choses à l'extérieur. Alors, des fois, ils profitent beaucoup pour travailler de longues journées, mais tu vas payer salaire minimum comme c'est déjà l'habitude.
Vous l'avez dit que ce projet de loi a été adopté par le gouvernement Mawa. Maintenant qu'on est à un gouvernement libéral, quelle chance qu'on a pour que les autorités reviennent sur cette décision?
Alors, on danse. Les questions.
Oui, alors, et comme vous avez dit tantôt, ce projet de loi a été adopté par le gouvernement Mawa. Maintenant qu'on est sous la direction d'un nouveau gouvernement, le gouvernement libéral, quelle chance que l'on a pour que les autorités reviennent sur cette décision?
Mais je pense que j'ai mal m'exprimé avant, mais c'est juste pour dire que les droits de la syndicalisation s'est approuvé quand était le gouvernement de Pauline Marois, parce que c'est après près de 2012. Mais avec cet gouvernement libéraux, ils sont comme modifié le code de travail pour que ces travailleurs travailleurs et travailleuses ne peuvent pas syndiquer. Et alors, On peut regarder que même si l'opposition officielle est là, juste 29 votes en compte de ce projet de loi.
Ils sont minoritaires.
Oui, non, mais ils sont minoritaires, mais pas tous les partis quand même, il a été en compte du projet de loi. Alors, et les arguments qu'il avait aussi, c'était pas le meilleur argument qu'il pourrait dire. Alors, je crois pas parce que le gouvernement ou les personnes qui sont dans le pouvoir, c'est toujours à côté de les employeurs et les employeurs jamais de les employés. Alors, je crois que ça, c'est une lutte qu'on doit mener parce que c'est pas le gouvernement qui pourrait peut-être changer les choses.
Le droit est d'être syndiqué ou pas, est-ce que ce droit concerne ici au Québec uniquement le secteur agricole ou tous les autres secteurs d'activité?
Mais pour ce projet de loi, c'est juste dans le secteur agricole. Mais comme vous voyez, il essaye avec un secteur, mais si ça marche avec un secteur, il commence de plus en plus dans différents secteurs. Alors, c'est une chose aussi de se préoccuper parce que quand il voit qu'il peut faire ça, qu'ils ont le pouvoir de, même pas réprimer, mais de, avec la loi, se protéger et protéger le secteur économique, que c'est les choses qu'il protège toujours parce que c'est pour ça qu'il pense que le système va survivre et il prend pas en compte les personnes. Et quand ces personnes sont vulnérables, c'est comme ça que commence aussi une division parce que, juste pour dire, ces travailleurs-là, ils sont amenés de les pays en voie de développement, mais ces travailleurs-là, ils sont moins de droits que les travailleurs, si sont les travailleurs ici, les travailleurs québécois ou les travailleurs québécois. Et peut-être juste pour ajouter, l'Organisation internationale du travail, même si tu es étranger ou tu es, tout le monde a le droit de la syndicalisation. Alors, c'est, même dans la charte de valeurs québécoise, dans la charte de valeurs québécoise, tout le monde a le droit de l'association. Alors, même pour ça, je disais avant que la Commission des droits de la personne a dit que c'est une loi qui ne doit pas être approuvée, mais malheureusement, il est déjà approuvé.
Donc, il y a plus de chances pour que cette loi soit révisée.
Pas vraiment, parce que, comme je dis, ça devient avec le secteur. C'est toujours le secteur économique qui a fait des lobbies et avec les 29 votes en compte, c'est pas, on n'a pas d'espoir que tout le monde va changer un peu de mentalité, les personnes qui sont dans le pouvoir.
Quelles sont les motivations du gouvernement pour amener une telle loi? Est-ce parce que ce secteur est subventionné par le gouvernement ou il y a une réelle motivation économique ou de l'ordre où on ignore encore qui amène le gouvernement à mettre cette loi en pratique?
Mais bien sûr, ce secteur, les deux choses, le secteur est subventionné pour le gouvernement. C'est un secteur que toujours dit pour aider à les petites entreprises ou à les petites employé, mais on sait que ce n'est pas vraiment vrai. L'autre chose, c'est pour faire la compétition, parce qu'ils ont pris le modèle à Ontario, parce qu'en Ontario, c'est loi, ça existe déjà. Alors, c'est toujours pour dire on doit compétir, mais si on a certaines choses pour les travailleurs, on ne peut pas compétir. Alors, c'est toujours lié plus au secteur économique, mais les travailleurs, ils sont rien à avoir de profit, mais juste les entreprises qui, en plus, ils sont subventionnés pour l'État ou pour le gouvernement québécois, ils veulent faire vraiment de profit à cause que les personnes ne sont pas de droit.
Le gouvernement bahaméen durcit le ton face aux immigrants jamaïcains, cubains et notamment face aux ressortissants haïtiens et aux fils de descendants haïtiens qui ont pris naissance aux Bahamas. 3000 d'entre eux ont déjà été déportés depuis le 1er novembre dernier, date de l'entrée en vigueur d'un décret gouvernemental prévoyant le rapatriement des illégaux étrangers ou de tout citoyen n'ayant pas la nationalité bahaméenne, ou tout simplement de ceux qui ne sont pas des Bahaméens de souche. Cette vague de déportation, avons-nous appris à CKUT, se poursuit. Elle est précédée d'arrestations arbitraires, de sévices corporels, pour ne citer que cela. Les centres de détention sont bondés d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés à leur domicile ou sur leur lieu de travail, qui attendent tous d'être rapatriés. Gerta Jean-Baptiste, une Bahaméenne d'origine haïtienne vivant en Californie aux États-Unis, nous a confié qu'une femme a accouché dans un centre de détention. Quatre autres, tout aussi enceintes, y vivent dans de mauvaises conditions. Toujours selon Mme Jean-Baptiste, le gouvernement bahaméen reste sourd aux appels lancés par des organisations de droits humains qui ne cessent de réclamer la cessation de ces abus. Aussi, tout citoyen étranger ayant acquis la nationalité bahaméenne peut se voir dépossédé de cette nationalité s'il ose dénoncer les actes du gouvernement bahaméen, a encore fait savoir Mme Jean-Baptiste. Le pouvoir de Nassau s'estime être pour le moment confortable dans ses mesures de déportation, alors que le ministre des Affaires étrangères Fred Michel a pris l'avion cette semaine pour Washington où il tentera de justifier par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme les mesures de déportation prises par le gouvernement de Pierre Christie, le premier ministre bahaméen. Si les déportations massives d'illégaux haïtiens et autres ne datent pas de cette année, elles se sont intensifiées depuis la mise en application le 1er novembre dernier d'un décret du gouvernement prévoyant l'expulsion des citoyens vivant dans ce pays et qui ne sont pas bahaméens de souche. Ce décret proposé par le chancelier Mitchell lui-même n'a aucune force de loi n'ayant pas été sanctionné par le Congrès des Bahamas. À Nassau, comme dans d'autres villes du pays, cette décision est interprétée comme une manœuvre du gouvernement de M. Christie visant à cacher la réalité sur le terrain. Aux Bahamas, en effet, le chômage, la criminalité sont en hausse. Des villages entiers, soit près de 10 000 familles, sont privés depuis des mois d'électricité. Selon plusieurs Bahaméens, la présence massive d'étrangers résidant sur leur territoire et qui ont acquis la nationalité bahaméenne serait à la base de cette crise. L'expulsion des illégaux pourrait aider, selon eux, à surmonter cette crise. Selon plusieurs observateurs, les mesures de déportation mises en vigueur par le Premier ministre Pierre Christie pourrait se retourner contre son gouvernement, contre l'île de la Caraïbe en général. Nassau, qui mise en effet sur le tourisme pour se développer, pourrait connaître une diminution de ses visiteurs. Depuis le 1er novembre, de nombreux organismes de droits humains, de simples citoyens, des Bahaméens vivant à l'étranger, ont entrepris sur les réseaux sociaux de vastes campagnes de dénonciation de nombreuses violations des droits humains par le gouvernement bahaméen. Ils appellent à ré-Bahamas de la carte touristique internationale. Une prise de position de l'Organisation des États américains est attendue dans les prochains jours pour forcer les autorités bahaméennes à cesser les abus envers les ressortissants étrangers vivant sur leur territoire. 5 des 11 millions d'illégaux vivant aux États-Unis depuis au moins 5 ans pourront éviter la déportation et obtenir un permis de travail. C'est ce qu'a annoncé jeudi devant le Congrès américain le président Barack Obama sans l'aval des sénateurs et députés. Les immigrants récents, les criminels et tous ceux qui ont des démêlés avec la justice ne sont pas concernés par cette décision d'Obama. Obama, qui face à l'intransigeance du camp républicain, a échoué de faire voter une réforme du système de l'immigration. Une amnistie de masse serait injuste. Des expulsions de masse seraient à la fois impossibles et contraires à notre caractère, a expliqué le président Obama au cours d'une brève intervention. Il promet un système plus juste et plus équitable. Les républicains contestent vivement cette décision d'Obama et annoncent par la voix de leur porte-parole à la Chambre des représentants, qu'ils vont la combattre dès la rentrée parlementaire prévue pour janvier. Ce n'est pas comme ça, la démocratie fonctionne, a martelé John Boehner, affirmant que le président se comporte comme un roi et comme un empereur. M. Obama avait auparavant enjoint ses détracteurs républicains du Congrès à voter la loi sur l'immigration. Face à leur réticence, il a agi, expliquant que la loi est à sa côté.
Cœur à cœur avec toi, CKUT
90,3 FM.
CKUT, heart to heart with you.
Alors, à cette édition d'information, La Voix des immigrants sur CKUT, nous allons parler santé. Nous allons parler principalement de l'Ebola, cette pandémie qui déjà a tué plusieurs milliers de personnes dans plusieurs pays africains, tels le Libéria et la Sierra Leone. Avec nous, notre collaborateur qui va nous entretenir sur ce qu'est l'Ebola. On savait que l'Ebola existait, mais de nos jours, la nouvelle sur les victimes laissées par cette pandémie en Afrique sont légion. Pourquoi on en est à reparler de l'Ebola et l'Ebola qui fait des victimes, à tel point que le Canada vient d'interdire à des ressortissants venant de ces pays d'entrer sur son territoire. Pourquoi maintenant?
Oui, bonsoir. Ebola, c'est un virus qui est apparu d'abord en 1976. On a retrouvé ces virus dans le nord-ouest du Congo, Congo-Kinshasa, et le Soudan également. Mais à cette époque, la médecine n'avait pas encore cette ampleur qu'on a aujourd'hui. Et puis, l'information ne roulait pas comme ça roule de nos jours. À cette époque, Ebola a dû faire aussi plusieurs morts, à l'ordre de 1500 personnes qui sont décédées à cette époque-là. Aujourd'hui, Ebola se retrouve en Afrique de l'Ouest, qui est en train de faire rage aussi de ce côté-là. Pour ce qui concerne les immigrants, le Canada qui vient de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, ben, c'est parce que, évidemment, il faut penser que le Canada, c'est un pays d'immigration. Et il y a beaucoup de gens qui font des va-et-vient partout le monde, actuellement, dans ces cas précis, qui vont en Afrique de l'Ouest, qui reviennent, ceux qui détiennent de petits commerces, d'importation, exportation, et ceux qui viennent pour s'établir au Canada. Vu l'ampleur de ces virus, et vu qu'on ne sait pas tellement identifier le réservoir précis de ces virus, jusque-là, on a identifié que les singes, les chauves-souris, mais cela n'est pas suffisant. Et compte tenu qu'il n'y a pas encore un vaccin qu'on peut utiliser et qui peut contenir ces virus, il est difficile de le contrôler. Donc, le Canada essaie de se prémunir de quelques moyens, notamment limiter les circulations entre l'Afrique de l'Ouest et le Canada.
Alors, parallèlement, il est vrai qu'il n'y a pas encore un vaccin, mais il est vrai également qu'il y a des personnes qui en sont décédées, notamment un médecin qui est revenu de l'Afrique de l'Ouest, qui avait contracté la maladie, il est décédé. Mais il y a quand même une ou deux personnes qui en sont guéries. Alors, quel est l'espoir, justement, pour ce vaccin? Pourquoi ne pas faire l'expérience directement sur le terrain, là où la maladie fait rage?
Oui, le vaccin est là, mais on ne l'a pas encore testé sur les humains. Je pense que ce sera la première fois qu'il sera testé. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ça peut ou ne pas marcher avec les humains. Donc, ce n'est qu'un test. Ce qui fait que les médecins sont en train de travailler là-dessus. Et ils ont déjà acheminé quelques doses de vaccins dans les coins concernés. Espérons que ça peut porter fruit. Concernant les personnes qui sont décédées, qui sont venues de l'Afrique de l'Ouest, notamment un médecin aux États-Unis, et je pense un autre en Europe, ben c'est toujours les gens qui étaient en contact avec des malades, parce que vous savez comment Ebola se contamine quand vous êtes en contact avec le malade, vous touchez ses sécrétions ou peut-être la salive, la transpiration et autres. Ben, si vous n'avez pas fait attention pour essayer de stériliser les outils que vous avez, vous pouvez être contaminé. Et comme vous savez que ce n'est pas du tic au tac que vous saurez que vous êtes contaminé, il faut attendre un délai de 2 à 21 jours pour commencer à développer le virus. Je pense que c'est ce qui a fait que le médecin est revenu et puis il s'est retrouvé avec le virus. Et le temps qu'on essaye de le suivre et tout ça, il n'a pas survécu.
Nous avons parlé tantôt de l'interdiction par le gouvernement canadien de citoyens provenant des pays où l'Ebola fait rage d'entrer sur le sol canadien. Quelles conséquences ça pourrait avoir pour ces ressortissants qui entrent et qui sortent du Canada?
Oui, cette décision a le revers. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des indépendants, qui détiennent de petits commerces, qui font des échanges entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest. Déjà, le volume de leurs affaires est vraiment faible. On les affaiblit davantage en leur empêchant de venir ou d'aller là-bas à cause de ces virus. Et ce qui fait que ça ralentit les affaires et ça les amène encore à vivre une vie de précarité pendant que le Canada ou l'Afrique de l'Ouest a besoin de développer plus le secteur des affaires qui peut petit à petit grossir et faire un grand volume d'échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et ici. On remarque aussi qu'il y a ralentissement dans le secteur de commerce entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe parce qu'il y a aussi des compagnies aériennes qui ont suspendu des vols dans ces coins-là, toujours à cause de ces virus et qui amènent toujours les mêmes conséquences. Donc, ceux qui vivent du commerce dans ces secteurs-là, l'échange entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et le Nord-Amérique, ils subissent un peu un coup et ils se retrouvent dans des situations bien embarrassantes à cause de cette décision-là.
Alors justement, cette décision est provisoire jusqu'à ce que la maladie disparaisse ou diminue en Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a effectivement une diminution? Est-ce que la maladie a régressé à nos jours en Afrique?
Oui, régressé, oui, mais c'est un virus qu'on ne peut pas contrôler d'aussi longtemps que le réservoir de ces virus ne sont pas tous identifiés. Jusque-là, on a identifié deux réservoirs, donc les chauves-souris et le singe, mais on ne connaît pas encore les autres réservoirs. Et compte tenu des habitudes alimentaires ou de la culture de ces gens qui vivent dans ces coins-là, il est difficile d'arrêter cette maladie parce qu'ils continuent avec leurs habitudes où ils vont chercher les viandes de brousse, ils s'alimentent et la manipulation même de ces viandes-là qui sont assez compliquées. Donc il faudrait arriver d'abord à imposer des règles d'hygiène pour arriver à ne fût-ce qu'à contrôler cette maladie-là.
Alors, nous avons parlé de l'Ebola et est-ce que vous pouvez nous faire part de comment se manifeste cette maladie?
Oui, cette maladie se manifeste par des fièvres, des vomissements, des maux de gorge, pour arriver même à des insuffisances rénales. Donc, on peut, ne fût-ce que par ces éléments-là, identifier déjà que telle personne a contacté le virus d'Ebola.
Alors, la phase où l'on constate que le malade a de grosses marques sur la peau, est-ce que c'est la phase ultime?
Ça dépend aussi de la résistance de la personne. Il y a des personnes qui, de l'entrée de jeu, il est déjà moribond. Il y en a qui résistent un tout petit peu. Mais ça, c'est difficile. Là, ce sont des médecins qui suivent pour arriver à contenir cette maladie-là.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres que nous avons développés. Des travailleurs et des travailleuses du Québec racontent leur vie au Canada. Les travailleurs unis en alimentation et en commerce appellent le gouvernement du Québec à surseoir sur l'application de la loi 8. La coalition contre le travail précaire marche en faveur de l'amélioration des conditions de travail des immigrants. Des milliers d'illégaux haïtiens, jamaïcains et cubains déportés ou en instance de déportation suite à l'adoption d'un décret par le gouvernement des Bahamas. Le président Barack Obama offre à plus de 5 des 11 millions d'immigrants la possibilité de résider et de travailler aux États-Unis. Le gouvernement mexicain nie toute implication dans la disparition des 43 étudiants. Hier, on nous parlait d'Ebola et immigration.